Nous voulons nous recueillir dans la prière. Ô Dieu, notre Père, tu viens de nous rappeler ce bonheur qui est devant nous et que nous allons bientôt connaître. Là où nous retrouverons tous ceux qui nous ont devancés, ces bien-aimés que tu nous avais confiés pour un temps et que dans ta grâce tu as trouvé bon de reprendre auprès de toi. Oh, nous sommes tranquilles. Nous sommes en paix à leur égard. Nous n'avons pas besoin de te prier pour eux. Ils sont dans ton repos, dans ta joie, en attendant l'heure de la résurrection. Seulement dans nos cœurs, nous nous souvenons de tout ce qu'ils nous ont donné, de ce qu'ils ont été pour nous, et nous voulons t'en rendre grâce. Et nous voulons te bénir de ce que tu as permis à Josaphat et à Françoise de traverser cette grande épreuve, et que tu les as soutenus au travers de ces eaux. Ils n'ont pas été submergés. Et la flamme ne les a pas consumés. Ils sont là au milieu de nous, dans le désir de te glorifier, de te servir et de donner aussi la possibilité à d'autres d'entendre la parole qui était pour eux leur consolation, leur force et leur vie. Et tu nous l'as rappelé qu'il fallait que nous estimions comme un sujet de parfaite joie. De joie complète les diverses épreuves que nous devons traverser. Et nous voulons te bénir parce qu'il n'y a pas parmi nous que des théoriciens de ta parole, mais des hommes et des femmes qui ont vécu ces choses et qui peuvent en rendre témoignage ce soir. Et c'est ces témoignages que nous aimerions pouvoir partager et entendre pour l'édification de toutes nos âmes, pour que personne ne puisse penser qu'il y a des êtres exceptionnels, mais que tous nous sommes faits de chair, que tous nous pouvons connaître des moments d'abattement, de brisement, comme Job qui s'est jeté dans la poussière, qui a pleuré, qui n'a pas été stoïque, mais qui n'a rien attribué à Dieu qui fut inconvenant. Lui qui a pu dire, l'Éternel avait donné, et nous croyons que nos enfants, c'est toi qui nous les as donnés. Et l'Éternel les a repris, et nous croyons que rien n'arrive sans ta volonté. Et nous disons simplement que son nom soit béni. Et maintenant, dans cette journée d'anniversaire de nos bien-aimés, nous te demandons de les réjouir par cette espérance de ta prochaine venue, de ce revoir éternel, de ce rassemblement dans les nuées du ciel. Et notre prière est pour les vivants, en particulier pour notre bien-aimé Claude que nous chérissons. Nous te demandons de toucher son cœur et qu'il puisse encore donner beaucoup de joie à tous les siens. Nous te remercions de ce que tu as fait pour le jeune ménage que nous aimons, les enfants de nos bien-aimés, René et Réjeanne, que tu les bénisses de ta bénédiction. Nous savons qu'ils auraient eu de la joie d'être aussi avec nous. Mais nous savons accepter les séparations parce que nous sommes d'abord à ton service. Et nous te louons pour la grâce que tu nous fais encore de pouvoir te servir. En Jésus. Dirige cette soirée. Prends-la en main. Et qu'elle soit ce que toi tu as pensé, et non pas ce que nous nous sommes proposés. Pour la gloire du Père, au nom du Fils, et par la toute-puissance du Saint-Esprit. Amen. Et oui, mes bien-aimés, nous sommes arrivés à ce lundi soir, 6 juillet 1987. Nous avons aussi eu la joie d'apprendre que dans la famille de Charles Dupont-Aubut, les enfants de nos bien-aimés, monsieur et madame Aubut, et la sœur et le beau-frère de notre Jocelyn, il y a eu une naissance. Vous le savez déjà, je pense. Un Timothée. Un Timothée. D'accord. Pas la première épître. Après Benjamin, il y a eu Timothée, et nous sommes aussi dans la joie pour les parents qui voient leur famille grandir. Et évidemment, il est dit, les fils sont un héritage de la part du Seigneur, et le fruit des entrailles est une récompense. Et nous bénissons Dieu pour nos amis. Et surtout, que tout soit bien, se soit bien passé. Alors ce soir, nous continuons les œuvres de la foi avec cette pensée que le Seigneur est en train de former un peuple qui publiera ses louanges. Le peuple que je me suis formé et qui publiera mes louanges, comme nous l'avons vu dimanche matin au culte. Alors, après avoir présenté aux enfants ce soir une nouvelle maman des Écritures, nous allons poursuivre notre sujet des responsabilités et des privilèges d'un père chrétien. Hier soir, je vous ai invité à penser et à méditer personnellement sur la vie de deux pères au temps des patriarches, c'était Abraham, père d'une multitude, qu'on peut appeler aussi notre père, le père de tous ceux qui ont la foi, comme on l'a vu dans Romains 4. Et puis nous avons cité un autre père au temps patriarcal, un arabe, Job, qui était père, lui, de combien d'enfants ? 10, et même, si on le veut bien, de 20. Hein? Il en a eu 20, car après en avoir perdu 10, Dieu lui en a donné encore 10. Et j'aime beaucoup cette expression, parce qu'il est dit qu'il lui a donné tout au double. Et s'il avait 3000 brebis, il en a eu 6000. S'il a eu 500 ânesses, il en a eu 1000. N'est-ce pas? Tandis que les enfants, il en a eu aussi le double. Alors combien est-ce qu'il faudrait qu'il en ait eu? 20. Mais il n'en a pas eu 20. Il en a eu 10. Pour quelle raison? Les autres étaient vivants. Les enfants de Job, les 10 premiers, n'étaient pas perdus. Ils n'étaient pas perdus. Ils avaient été repris. Mais il en a eu 10 ensuite. Et alors ça lui en a fait 20. Tandis que les brebis qui avaient été prises, elles étaient mortes. C'est là toute la différence. Mais il a eu le double aussi au sujet de ses enfants. Voyez-vous, j'aime la parole parce que la parole, justement, elle est très précise. Et il n'y a pas un détail qui ne puisse édifier nos cœurs. Mais ce soir, avant de vous parler d'un troisième père, j'aimerais vous demander, comme on l'a prévu ce matin, que vous puissiez nous dire ce qui vous a frappé, ce qui vous a arrêté dans ce premier chapitre de l'épître de Jacques que nous avons lu. Alors, vous voyez, il y a le micro qui est là et on vous demanderait, pour que l'on puisse enregistrer votre partage, de vous approcher du micro si possible. Toi qui sais. On le ferait maintenant, oui. Alors, vous avez devant vous votre épître de Jacques. Il m'a semblé que je devais plutôt rester souple sous la mouvance de l'esprit et vous donner maintenant l'occasion de dire ce que vous avez ressenti. Puis après, pour finir, je vous citerai
un autre papa, en vous parlant de ses privilèges et de ses responsabilités. Un papa qui nous ressemble étrangement et qui va nous montrer combien la grâce de Dieu est là pour les pères aussi. Qui va commencer par nous dire ce qui l'a frappé, ce qui lui a parlé dans ce premier chapitre de l'Épître de Jacques?
En relation avec mon travail. Je vais vous lire ça, c'est vers la fin, là, mais en tout cas, j'ai été frappé vers la fin, c'est comme ça que ça s'est passé. Au verset 25, on dit, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » C'est que dans mon travail, moi je travaille pour le gouvernement, et puis quand on travaille pour le gouvernement, on fait appliquer les lois, habituellement quand on... Alors, dans mon travail, j'ai à veiller à ce que, par exemple, la loi sur la santé et la sécurité du travail soit mise en application dans les établissements industriels. Et quand on accomplit un travail comme ça, moi, quand j'ai un contact avec les gens à qui on doit signifier la loi, c'est un contact astreignant. Les gens nous voient venir et puis n'aiment pas tellement ça. Et ici, on parle de la loi, d'une loi parfaite qui ne procure pas tout à fait le même effet. On dit que celui qui plonge ses regards dans la loi de Dieu, sera heureux dans son activité. Et je faisais un peu ce parallèle avec mon travail, parce que je vis ça quotidiennement. D'abord, c'est une loi qui n'est pas parfaite. Une loi, quand elle est faite, quand elle est votée par l'Assemblée nationale, parce que c'est comme ça que ça se passe ici au Québec, d'abord, c'est une loi qui est retouchée souvent, elle est amendée à l'occasion, et on fait des règlements pour la rendre plus précise. Mais ici, on parle d'une loi parfaite, et cette loi-là, c'est la parole qui est entre nos mains. Et ça me dit que d'abord, c'est un privilège qu'on a d'être formé par cette parole-là, et que si on va jusqu'au fond de cette parole-là, on va être heureux dans notre activité. Et par rapport à moi, ce que j'avais à mon travail, il y a des gens qui respectent la loi, n'en tirent pas de bonheur, ils ne sont pas heureux pour autant. Ils s'évitent les embêtements, mais ça ne leur apporte rien d'autre. Parce que lorsqu'on se soumet à la loi de Dieu, à sa loi parfaite, on est heureux dans notre activité. Donc, on soutire des choses qui sont applicables à nos vies, et des choses positives. Alors, je voulais juste vous partager ça, parce que ça m'a frappé, justement parce que j'ai un contact fréquent avec l'application d'une loi, mais cette loi qu'on a entre les mains, cette loi de Dieu, c'est une loi de liberté. Pendant que dans le monde, on appelle ça les lois de l'homme, ce sont les lois contraignantes, la loi de Dieu est une loi qui nous procure de la liberté. Alors, il y a un peu un antagoniste dans ça, et j'ai pu vérifier ça, effectivement, parce que plus on la connaît, cette parole, et plus on veut la suivre, et plus elle nous libère de tout ce qui est contraignant en nous. Alors, je voulais partager ça avec vous.
Merci. Vous voyez combien cela est précieux pour nous, parce que on voit que la parole a rejoint le cœur de notre frère, justement, dans ses occupations toutes matérielles. Et c'est là la beauté de la parole. Et on pourrait dire qu'il connaît aussi ce que j'appelle le deuxième bonheur, hein, parce qu'il est parlé dans l'Écriture de trois bonheurs. Eh bien, il connaît le bonheur dans la marche, il sera heureux dans son activité. Le premier bonheur, et j'espère que tous ici le connaissent, c'est le pardon des péchés. Bienheureux l'homme dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Ça, c'est le premier bonheur. Le bonheur que l'on a quand nos péchés sont pardonnés. Oh, que Dieu permette que tous ici aient reçu le pardon de leurs péchés. Puis après ce premier bonheur, j'appelle le second bonheur, c'est le bonheur dans la marche, que vous trouvez illustré par le psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est cela, hein?
c'est pas une fois seulement, mais c'est tous les jours de ma vie, le bonheur dans la marche. Et c'est vraiment en étant avec le bon berger que vous aurez ce bonheur dans la marche. Pour arriver enfin au troisième bonheur qui devrait être le bonheur du départ. Je ne parle pas du bonheur éternel, mais quand on a fini sa course, eh bien on devrait pouvoir partir avec joie. Et j'ai vu des lits de mort où l'on partait avec joie, où c'était un envol, on savait où l'on allait, on savait que l'on était attendu, comme l'enfant qui est sorti du sein maternel a été reçu, c'était l'inconnu pour lui, mais pourtant il a été reçu, il ne savait pas ce qui allait lui arriver quand il sortirait du sein maternel, et pourtant il a été accueilli. Eh bien, nous voudrions que tous sachent que si même ils doivent passer par la mort, ils seront accueillis par notre Père éternel, par le Seigneur lui-même, pour connaître une félicité ineffable. Mais cela me rappelle un souvenir, justement, qui est très cuisant. C'était le père, c'était le docteur Rossier qui a écrit beaucoup de livres et qui a baptisé ma propre mère et qui a été appelé au chevet d'un mourant. C'était en Suisse, et cet homme lui a dit, vous savez docteur, moi je me suis converti, c'est vrai ma conversion, je suis sûr d'être sauvé, j'ai été converti, et puis j'ai marché un temps, mais ensuite, eh bien, je suis retourné dans le monde. Et maintenant, je vais mourir, et je voudrais que vous fassiez mon enterrement, et que sur le cimetière, vous leur disiez que je sais que je suis sauvé, mais comme au travers du feu, mais que je meurs sans joie. Je n'ai pas même la joie en pensant que je vais vers mon sauveur, et pourtant je sais qu'il est mon sauveur, mais j'ai le sentiment que j'ai perdu toute ma vie. Il n'avait pas le troisième bonheur. Moi, ce n'est pas à moi à juger qui est sauvé, qui ne le sera pas, mais je crois qu'on devrait pouvoir finir notre vie comme un beau coucher de soleil. C'est vrai ou c'est faux? L'apôtre Paul, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il n'a pas dit, j'ai perdu la foi. On ne la perd pas, on l'a vraiment. J'ai gardé la foi. Pourtant, il y a eu des épreuves, il y a eu des tribulations. Mais il pouvait parler de son troisième bonheur comme en disant, pour moi, vivre, c'est le Christ. Mais mourir, c'est un bien, c'est un bonheur. Car être auprès du Christ, c'est de beaucoup le meilleur. Et vous savez, ceux qui y sont, ils voudraient parvenir. Ils attendent dans la paix, dans la joie, dans la contemplation, l'heure de la résurrection. Mais ils sont loin du péché, loin de tout ce qui est tordu dans ce monde, et loin de toutes les larmes. Alors, merci de nous avoir partagé ça. C'est tous les jours de la vie, heureux dans votre activité. Quelqu'un d'autre? Vous voyez, ça nous aide.
Le verset 12 nous dit que de sa propre volonté, il nous a donné la vie par sa parole de vérité, afin que nous soyons au premier rang de toutes ces créatures. Ça m'a montré qu'aux yeux de Dieu, on est vraiment important. On n'est vraiment pas des esprits, parce qu'il faut vraiment dire que on a du prix aux yeux de Dieu, parce qu'il va nous classer au premier rang de ce qui est créé. Et pour moi, c'est vraiment grand. C'est vraiment. Mon Dieu est vraiment grand pour m'avoir choisi pour être au premier rang.
C'est vrai. Mais combien c'est merveilleux. Ce qui est traduit dans cette Bible, au premier rang, c'est traduit ici les prémices. Les prémices de ces créatures, c'est ce qui vient en premier. Or, vous savez, qui est-ce qui est appelé les prémices? Jésus. Hein? Christ est les prémices. Prémices, alors, vous êtes semblable à Christ.
Donc c'est la réalité. Nous étions prédestinés, il nous a prédestinés dès avant la fondation du monde, à être conformes à qui ? À l'image de son Fils. Donc au premier rang. C'est lui qui occupe en tout la première place. Alors comme nous serons en lui, nous serons à la première place. C'est quelque chose de merveilleux de prendre conscience de cela au premier rang. Oui. Voilà ce que le Seigneur a fait de nous, des derniers, des derniers, hein, des dernières créatures. Et il a fait une œuvre qui nous place au premier rang. Alors prenez conscience de ce que vous êtes, mais de ce que vous êtes en lui. Si nous avons insisté sur le fait que nous étions zéro en nous, en Jésus nous sommes premiers. C'est ça. Alors, il n'y a pas de dépression nerveuse. Il est votre tonique. Et puis vous donnez toute gloire au Seigneur, puis vous vous réjouissez en lui. Quelqu'un d'autre va nous partager un autre.
Moi,
verset 2.
Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Je ne voudrais pas aller prétentieux, mais moi, je l'ai cherché autant que mon temps. Et puis, une chose que j'ai appris, c'est depuis 3 ans, j'ai eu beaucoup d'épreuves. Mais depuis 1 an, j'ai accepté mes épreuves. Puis, depuis que j'ai accepté les épreuves avec joie, c'est pas possible comment un gars peut changer, comment il peut se sentir bien. Je parle changer intérieurement. Là. Je vis, moi qui vivais 1 an d'avance, maintenant je vis jour le jour.
Amen.
Sans m'en faire pour demain. Puis j'ai jamais savouré une journée comme depuis ce temps-là. Je regrette les 2 années que j'ai pris mal.
Eh bien, ça c'est merveilleux. Et le Seigneur te donne cette parole. Je te redonnerai les années. C'est Joël, chapitre 2, verset 25. Même si tu regrettes, ne vis plus dans le regret, tu vis pleinement ces années qui sont transformées. Et chaque jour, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000. Chaque jour où tu as été heureux maintenant depuis cette expérience, ça valait 1000 jours passés. De sorte que c'est déjà rattrapé. C'est quelque chose de merveilleux parce que c'est le Dieu de la grâce que nous connaissons. Merci de ce partage. Et voilà justement un frère qui a été formé par Dieu pour la louange. Formé pour la louange. Je vous forme pour que vous soyez à la louange. De la gloire de Dieu. Pas quand on saura le pourquoi de toutes nos épreuves, mais déjà maintenant. Il y avait un vieux frère de Belgique qui disait ici-bas, c'est les pourquoi, là-haut, ça sera les parce que. Alors, on attend les parce que. Hein. Mais je disais ça d'une voix très lugubre. Eh bien, il n'y a pas besoin d'attendre les parce que. Les parce que qui nous jetteront au pied du Seigneur. Par terre, devant lui, pour lui dire, mais c'est merveilleux. Mais c'est merveilleux de pouvoir dire déjà, sur la terre, avant de connaître le parce que. Même quand on ne comprend pas encore pourquoi on a dû passer par cette épreuve, Seigneur, tu es merveilleux, je te fais confiance. Et de l'éprouver dans son corps, notre frère, il peut dire qu'il est bien dans sa peau. Ça ne veut pas dire que notre sentier est formidable, mais on est bien dans notre peau malgré tout. Parce qu'on est dans la peau du Seigneur, dans la peau d'un homme. Pas dans nos feuilles de figuier, parce qu'alors là, c'est la vraie nudité. Mais Adam, quand il n'était pas bien avec ses feuilles de figuier. Hein? Mais après, Dieu l'a nu, lui a fait des vêtements de peau. Et il était dans un vêtement de peau. Et dans un vêtement de peau, il était dans le Seigneur. Donne ta peau à lui. Il s'est sacrifié pour nous, c'est ça. Toute l'écriture n'est pas inspirée de Dieu. C'est ça qui la nous donne. Des vêtements de peau. On est sauvé par le sacrifice d'un homme. On est en quelque sorte dans la peau d'un homme. C'est pour ça qu'on est heureux. Mais quand on est dans notre propre peau, ben c'est les feuilles de figuier. On se sent tout nu. Quelqu'un d'autre.
Je vais vous donner une expérience.
Non, c'est bien.
Parce que j'avais une relation avec ma soeur avant que je vienne au Seigneur qui était à l'indifférence. Puis, étant donné que j'étais venu au Seigneur, puis je m'étais dit, la première chose qu'il faut que je fasse, c'est que je vais voir ma soeur et puis tout ce que j'aurais pu faire, je m'en demandais pardon. Ça a causé que nous avons eu des contacts plus fréquents. Mais lorsque nous avions des contacts, souvent ça tournait en... Elle voulait vivre les expériences qui étaient passées, puis elle revenait sur ça, ça faisait des discussions autour de ça. Puis moi, je demandais au Seigneur dans le temps qu'il me donne une parole. Parce que ça me troublait beaucoup. Je me rappelle un soir, j'étais revenu, puis le Seigneur m'avait donné l'épître de Jacques que j'aimais beaucoup. Puis j'avais été au verset 19. Ça disait: sachez-le, bien frère, bien aimé, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Parce que là, avant que je vienne au Seigneur, ma première réaction aurait été une grosse discussion, puis j'aurais tombé en colère. Mais c'est ça vraiment qui a changé ma vie dans le sens de mon attitude envers, premièrement, ma soeur, et puis même tous ceux qui pourraient être autour de moi. Puis on s'en continue au verset 21, c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes.
Merci André. Et combien cela est vrai quand on peut comprendre cela au lieu de tout de suite parce qu'on n'est pas d'accord sur un point. Se laisser aller à l'emportement. Puis peut-être même, on essaie de le justifier en disant, mais c'était une sainte colère. Parce qu'on pense que Jésus a eu des saintes colères. Mais qu'est-ce que c'était la colère de Jésus ou les colères de Moïse? C'était la réaction du bien vis-à-vis du mal. Alors, c'est ça une sainte colère, une réaction du bien en face du mal, mais du mal manifesté. Mais nous autres, on est tellement misérables qu'on n'en a pas souvent des saintes colères. Alors, nous devons avoir de la grâce à l'égard de ceux qui ne pensent pas comme nous. Et c'est comme cela que les cœurs seront gagnés. Et je suis sûr que le cœur de ta sœur sera gagné, s'il n'est pas déjà. Quelqu'un d'autre?
Voyez-le ou non, c'est le même verset qu'André. À la différence que c'est pas ma femme, c'est ma femme des fois. Il vient pas ici de faire des confessions. Ça m'a frappé ce matin. Oui, c'est ma femme. Oui, okay. C'est que ça m'a frappé. À un moment donné, c'est beau, on vous écoute, ça. Mais des fois, on peut s'égarer. Puis là, quand j'avais commencé, la colère, là. La parole, tout ça, là. Oups, j'ai pas sursauté, mais j'ai dit, tiens, on va être là attentif, là. Mais pour compléter, par exemple, c'est là la différence avec André. Si on va au verset 22, c'est mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Ça veut dire que c'est l'enchaînement. Il faut y revenir. D'ailleurs, les intervenants avant moi, Bertrand, ainsi que le monsieur, ou l'autre monsieur, il en font allusion, c'est toujours la parole, c'est la base, c'est l'essence même. Comme je vous disais, dans mon cas, on se connaît peu, on va être ici juste une semaine. C'est plaisant, on discute, on a des rencontres avec des gens. C'est toujours ce que vous dites, là, le petit appareil. Pour cette semaine, là, c'est notre petit appareil qui va fonctionner, parce qu'on n'a pas le temps d'aller plus loin, de se rencontrer plus. Mais quand on se regarde nous-mêmes dans notre fond intérieur, là, puis qu'on va plus loin, entre autres, à ce verset-là, comme André a mentionné, qu'il l'a lu, là, puis qu'on se rend lent à parler, là, ce qu'on faisait plus souvent. Prompt, par exemple, à écouter. Puis dans mon cas, des fois, très lent à se mettre en colère. Parce que c'est pas des colères là, de drogués ou d'alcoolique ou peu importe. Là. Non, c'est des colères de situation. Il se produit quelque chose, on perd un petit peu les pédales. C'est la vie d'aujourd'hui.
D'ailleurs, j'espère que je ne suis pas le seul dans la salle.
Mais ça m'a frappé. OK. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend aux autres chapitres, là, mais les autres versets. Mais ça m'a frappé. Ça tombait dans le milieu, là, puis ce matin, je suis frais, là, quand j'ai entendu ça. Puis c'est ce que je voulais vous partager.
Merci. Bien, vous voyez, ça, j'avais vraiment à cœur que nous le comprenions et que je le comprenne moi, pour moi, parce que c'est toujours une épée à deux tranchants. Il y a un tranchant pour moi, il y en a un pour vous, mais il y en a un pour moi. On ne prêche pas pour les autres, on se prêche à soi quand on est dépendant du Seigneur. Et le Seigneur nous humilie, nous dit, tu dis cela aux autres, mais toi, qu'est-ce que tu as envie, hein? C'est toujours ça l'interrogation, c'est pour ça qu'on aime après aller se recueillir, peut-être s'humilier, puis dire, je ne pouvais pas leur dire autre chose parce que je dois prêcher le but, je dois prêcher ce qui est parfait. Ça ne veut pas dire que j'arrive, moi, mais je dois leur montrer que c'est vrai que toi, tu peux nous amener là. Et c'est pour ça que nous resterons dans l'humilité, nous ne nous glorifierons pas, nous n'essayerons pas de nous montrer, nous dire, vous voyez, moi je suis un type bien, c'est pas vrai, parce que quand on est dans la présence de Dieu, eh bien on soit minable. Mais quand on est dans la présence de Dieu, puis quand c'est minable, puis qu'on est parti à ce qui fait Dieu. Il vous finit. Non. C'est ça. J'ai tout cassé. Excuse-moi.
Je viens comme mon fils, on avait
cassé. J'oublie complètement qu'il le met en boîte. Il nous met en boîte. Mais c'est vrai, c'est ça que vous en souviendrez.
Il avait parlé de la colère.
Non, nous avons compris que la colère n'accomplit pas la justice. On va y penser deux fois. On aurait toutes sortes de justifications. Mais la parole est là. La colère n'accomplit pas la justice. Je vais creuser ça. Puis me dire avant, oui, ça n'a compris pas. Parce que lui, justement, il était en colère contre lui, avec raison, hein, mais sa colère, c'est tout. Et la colère de Dieu est tombée sur qui? Sur le Saint. Et il dit, il n'y a plus de colère. C'est ça qui est fini. La parole de Dieu dit, il n'y a plus de colère. Vous pourrez encore connaître les châtiments de Dieu en discipline, mais c'est jamais la colère. Vous ne devez jamais attribuer quand vous avez une épreuve que Dieu est en colère contre vous. Ce n'est pas vrai, c'est Satan qui vous dit cela. Le Seigneur, sa colère s'est détournée. Mais ceux qui ne veulent pas du Seigneur, la colère de Dieu demeure sur eux. Mais maintenant, la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a plus de colère. Il était en colère contre nous, Ésaïe chapitre 12, mais sa colère s'est détournée. Il n'y a plus de colère. Nous participons à la discipline, mais il n'y a pas de colère. Et c'est ça qui est merveilleux. Tandis que le monde, ben, il attend la colère qui vient. La colère vient sur lui. Mais nous, nous attendons Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Quelqu'un d'autre?
J'aimerais mentionner un verset qui avait déjà été cité, le verset 2, qui m'a énormément frappé. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Je trouve que moi, la première, et beaucoup de chrétiens vont à la rigueur accepter les épreuves auxquelles ils sont soumis, se disant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais au point d'en être joyeux. Je trouve pas qu'on voit beaucoup ça chez les chrétiens, vraiment, le refléter la joie de Christ en toutes circonstances. Et cette parole-là me parle à moi la première. Et je me dis que vraiment, si en toutes circonstances, les chrétiens reflétaient la joie de Jésus, combien ça pourrait faire? On pourrait être des outils tellement plus précieux entre les mains du Seigneur et combien ça pourrait faire des conversions. C'est une chose qui me tord le cœur de voir des chrétiens tristes, parce qu'il me semble que quand on pense que Jésus est toute notre vie, puis qu'on a un salut qui est si merveilleux, puis une espérance si grande pour l'avenir qu'on ne devrait pas être triste, quelles que soient nos circonstances. Et c'est pour ça que je voulais rementionner le verset 2, parce que je trouve qu'on devrait le méditer peut-être tous les jours pour essayer de vivre la joie de Christ et que ça paraisse qu'on soit rayonnant.
C'est vrai. Merci, ma sœur, parce que ce que vous touchez là, c'est une parole. Je me souviens de l'endroit à Nice, en France, où le Seigneur m'a parlé. J'étais dans une grande épreuve et puis il m'a donné cette parole. Hein. Estimez-le comme un sujet de parfaite joie quand vous serez en but à diverses tentations, diverses épreuves. Et là, j'ai compris cela. Et, vous savez, il y a ces moments de grâce dans notre vie où c'est des versets qu'on connaît, hein, on les a peut-être lus, mais tout d'un coup, ça devient, comme notre frère le disait, au sujet de la colère, une réalité. On se sent atteint, enfin. Et je me suis dit, mais c'est ça notre moyen d'évangélisation. On voudrait, n'est-ce pas, que le monde se convertisse. Mais le monde, il nous regarde, puis il dit, qu'est-ce qu'ils sont, ces chrétiens? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Qu'est-ce que ça a changé, leur conversion? Ils murmurent, ils sont pas contents, ils ont une épreuve. Eh bien, ils remettent en doute la justice de Dieu, la puissance de Dieu. Alors que, quand vous lisez les psaumes, il est dit, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours sur mes lèvres. » Et un peu plus loin, il est dit, « Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. » Donc, si on n'est pas rayonnant de joie, c'est qu'on n'a plus nos regards vers lui, sur lui. Et c'est vrai. C'est qu'on n'a plus nos regards sur lui. Et il est affligé de cela. Parce que si on regardait toujours à Jésus, bien, on serait délivré d'une foule de choses. Quand on regarde à Jésus, bien, c'était à Londres une fois, je me trouvais là et j'avais entendu cette parole. On ne peut pas regarder dans les yeux de Jésus et pécher. Et j'ai compris que c'était vrai. Je ne peux pas regarder dans les yeux de Jésus et pécher. C'est pas possible. Mais alors, je regarde ailleurs. Et alors, si je regarde ailleurs, tout me porte à pécher. Parce que tout ce qui est dans le monde, c'est le péché qui est étalé. C'est la convoitise qui est là dans le monde. Alors, elle trouve un accès dans mon cœur. Alors, puissions-nous le contempler, lui. Le christianisme, c'est une personne, c'est Jésus, la vie éternelle, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un, c'est pas une idéologie, alors c'est quelqu'un qui nous habite. Alors, s'il nous habite, et s'il grandit en nous, nous serons aussi rayonnants de joie. Merci de nous l'avoir souligné. Alors, vous voyez, au lieu d'être heurté par cette parole, estimez-le comme un sujet de joie complète. Eh bien, il nous donne justement dans les épreuves l'occasion de manifester la réalité de notre foi. Parce que quand tout va bien, c'est facile d'être souriant. Mais quand tout va mal, puis qu'on dit, mais vous êtes quand même heureux? Bien sûr. C'est pas les circonstances qui me rendent heureuse. C'est celui qui m'habite. Alors, lui ne change pas. Merci. Quelqu'un d'autre?
Moi, c'est deux versets que j'aurais pu partager. C'est versets 22 et 23. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et... 24 aussi, et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt comment il est. Ce que ça me fait penser, c'est qu'on souvent on lit la parole, Dieu nous parle, dans nos cultes personnels, Dieu nous parle, on lit des livres, Dieu nous parle, des enseignements, Dieu nous parle aussi. On a tendance à oublier des fois les bienfaits que Dieu fait pour nous, l'enseignement qu'il nous donne, les choses que Dieu nous dit, peut-être qu'il serait mieux de repenser à ça. Puis, c'est peut-être, c'est pas bien ce que tu fais là, on oublie ça, puis on dit plus tard, Seigneur, plus tard. Ce qui m'a fait penser aussi que si nous autres, on se regarde dans un miroir, puis qu'on voit notre homme naturel, c'est qu'on voit pas Jésus-Christ ici dans ce miroir-là. Parce qu'il faut tendre vers la stature parfaite de Jésus-Christ, puis éventuellement, on devrait voir à la place de nous-mêmes dans ce miroir-là, c'est Jésus-Christ. Fait que je me dis aussi, si on voit pas Jésus-Christ, les autres autour de nous ne voient pas Jésus-Christ, puis par conséquent, au bureau, les gens qui nous entourent, nos amis, c'est pas des, ils peuvent pas voir notre témoignage parfait. Fait qu'on vit pas vraiment l'Évangile. On peut pas être vraiment le fait de la terre comme Jésus.
Ben c'est vrai. Merci de nous l'avoir partagé.
sommes bien d'accord avec ce qu'il a dit. Hein? Ça, c'est la vérité. Et on le sent. Parce que, quand vous regardez votre visage naturel, est-ce que vous trouvez qu'il a changé? Qu'il est amélioré? Visage naturel? Non, il s'améliore pas. Mais ce que nous regardons, c'est le visage de Jésus dans sa parole. Et alors, ça devient comme un reflet, c'est son visage. Nous sommes un miroir aussi. Et alors, si le miroir est tourné, bon, comme ça, je me vois, c'est pas beau. Mais si je le tourne comme ça, bon, c'est votre portrait, c'est peut-être meilleur. Mais enfin, on est des hommes, on le sait bien. Hein? Alors, il faut le tourner du côté du Seigneur. Et c'est son visage. Je cherche le visage du Seigneur jusqu'au fond de vos cœurs. C'est ça que le monde voudrait voir. Le visage de Jésus dans nos vies. Vous savez, il y a des chrétiens, ça fait beaucoup souffrir ma femme. Elle dit, à l'hôpital, ils viennent, ils sont chrétiens, ils disent que les autres sont des païens. C'est une chose abominable, je trouve. On ne peut pas dire que les autres sont des païens. Ils mettent leur Bible bien en vue sur la table de nuit pour montrer qu'eux, ils sont chrétiens. Hein? Et puis ils jugent tous les autres. Puis ils se plaignent de ceci, ils se plaignent de cela, ils se plaignent de la nourriture. Ils sont épouvantables à vivre. Mais ils veulent évangéliser. Ils détruisent tous leurs témoignages. Et on aimerait presque cacher leur vie. Ça ne recommande pas la vie. Pas plus que les télé-évangélistes américains. Ils ne recommandent pas la Bible parce qu'ils sont. Et pourtant, ils disent qu'ils croient à toute la Bible. Voyez-vous, c'est vous qui devez devenir une Bible vivante. Et quand on est une Bible vivante, on ne se plaint pas. Alors, que le Seigneur conduise, non, pas encore. Quelqu'un d'autre.
Quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alors, lorsque le Seigneur lui donne la sagesse, il fait en sorte qu'on lui demande.